Radio Prague, les informations.
Dobrý den, bonjour, Alexis Rosenzweig au micro pour le bulletin dont voici tout de suite les titres. L'Union européenne favorise la croissance tchèque selon l'Association nationale des banques. Une association équipe un sans-abri avec un routeur Wi-Fi. Et puis la chanteuse Marta Kubišová a été hospitalisée après un infarctus. À l'instar du ministère tchèque des Finances, l'association tchèque des banques a revu ses prévisions macroéconomiques à la hausse et table désormais sur un taux de croissance de 4,2% pour l'année 2015 contre 4,5% pour le ministère. Pour l'association, l'un des facteurs les plus importants expliquant cette croissance soutenue n'est pas la politique fiscale du gouvernement ni la baisse du prix du pétrole, mais le cofinancement d'investissements grâce à des fonds structurels de l'Union européenne. L'association a dans le même temps revu ses prévisions à la baisse pour la croissance du produit intérieur brut en 2016 de 2,7% à 2,5%. L'association tchèque Wi-Fi for Life a équipé un sans-abri avec un routeur Wi-Fi pour fournir un accès aux passants dans la rue en échange d'une aide matérielle et financière. La nouvelle fait déjà le tour de l'Internet francophone et la démarche suscite la controverse. Elle déplaît notamment au collectif français Les Morts de la Rue, interviewé par une télévision privée française. Le procureur du 2e arrondissement de Prague a décidé d'abandonner les poursuites à l'encontre des personnes soupçonnées d'avoir lancé des œufs sur le chef de l'État Miloš Zeman lors des célébrations du 25e anniversaire de la Révolution de Velours en novembre de l'année dernière. C'est le quotidien Mlada Fronta Dnes qui rapporte l'information, citant l'un des anciens accusés. Au moins, monsieur le procureur fait preuve de bon sens. La police avait ouvert une enquête en juillet dernier et les enquêteurs ont eu depuis bien du mal à savoir comment appréhender cette affaire qui a plusieurs fois changé de main. Les policiers ont finalement inculpé deux personnes qui ne seront donc pas inquiétées. 70,5% des personnes âgées de 15 à 64 ans étaient employées au troisième trimestre de cette année en République tchèque. Il s'agit du taux d'emploi le plus important depuis la fondation du pays en 1993, selon les chiffres de l'Office tchèque des statistiques. Je vous le disais en titre, Marta Kubišová, chanteuse emblématique en République tchèque, a été victime d'un infarctus ce week-end et elle est prise en charge à l'hôpital Na Homolce de Prague. L'incident s'est produit alors qu'elle s'apprêtait le lendemain à célébrer son 73e anniversaire. Selon la porte-parole du théâtre où la chanteuse devait se produire, Marta Kubišová serait à présent hors de danger. Elle est connue notamment pour sa chanson « Une prière pour Marta », symbole de l'écrasement du printemps de Prague, et pour sa non-compromission vis-à-vis du régime communiste durant la période de normalisation. À noter qu'une autre légende de la chanson tchèque, Karel Gott, est également hospitalisée dans un autre établissement pragois après une opération du ventre et des tumeurs cancéreuses. Il a décidé d'annuler tous ses concerts pour les semaines prochaines. Météo, c'est toujours l'été indien à Prague et dans le reste du pays, mais les températures sont en baisse. Il gèle pendant la nuit et il y a des brouillards matinaux. Voilà pour l'essentiel des infos. Le reste, c'est sur www.radio.cz, www.radio.cz/fr pour accéder directement à nos pages en français. Dans une poignée de secondes, c'est la suite de ce programme en français avec Alžbeta Tichá.
Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour et bienvenue chers auditeurs et auditrices de Radio Prague à l'écoute de ce magazine consacré à l'actualité tchèque. Merci à Alexis Rosenzweig pour son bulletin d'information. Ce mardi, on se penchera tout d'abord sur la crise migratoire et plus précisément sur les moyens de soutien que va apporter le gouvernement tchèque à la Slovénie afin de l'aider à protéger ses frontières. Nous parlerons ensuite de l'exposition universelle à Milan qui s'est achevée samedi dernier et notamment du succès du pavillon tchèque qui a remporté la médaille de bronze pour sa valeur architecturale. Enfin, comme chaque mardi, nous retrouverons la rubrique Panorama consacrée cette fois-ci au Festival du film documentaire dont la 19e édition s'est tenue la semaine passée à Jihlava. Bonne écoute à toutes et à tous! Comme pour la Hongrie précédemment, le gouvernement tchèque a validé lundi l'envoi de 20 policiers et de 50 soldats en Slovénie afin d'aider celle-ci à protéger sa frontière avec la Croatie, voie empruntée par des milliers de migrants. Par ailleurs, la République tchèque consacrera 105 millions de couronnes supplémentaires, soit près de 4 millions d'euros, d'ici à la fin de l'année aux pays les plus frappés par la crise migratoire. Plus de détails avec Guillaume Narguet.
Ne s'agit-il pas que de gestes symboliques? Le nombre de policiers et de soldats est-il suffisant ou insignifiant? Les quelques millions octroyés au Proche-Orient et à l'Afrique ne représentent-ils pas qu'une toute petite goutte d'eau dans un océan de détresse? Et compte tenu de son montant, cette aide humanitaire à des régions ruinées et ravagées par la guerre a-t-elle même un sens? Telles sont quelques-unes des questions qui ont été posées lundi suite aux décisions annoncées par le gouvernement. La République tchèque affirme être solidaire et vouloir agir sur le terrain pour tenter de résoudre la crise migratoire, notamment en apportant un soutien concret aux pays touchés par l'exode de leur population et en aidant en Europe à rendre plus imperméables les frontières de l'espace Schengen. Prague va donc envoyer dans les prochaines semaines, via notamment deux fonds européens, quelques dizaines de millions de couronnes, plus 70 encore l'année prochaine, à des pays comme la Turquie, le Liban ou la Jordanie, là où les camps de réfugiés, essentiellement syriens, sont les plus importants. La volonté déclarée de la diplomatie tchèque est de ralentir les flux de migrants en direction de l'Europe, comme l'a confirmé le ministre de l'Intérieur, Milan Chovanec.
La politique européenne est inefficace dans cette affaire. Je ne dirais pas qu'elle a échoué, mais les mesures qui ont été prises jusqu'à présent restent sans effet. Depuis le début, nous affirmons que le système de quotas par répartition, que ceci soit imposé ou non aux États membres, ne marchera pas. Nous en avons aujourd'hui la confirmation. Je suis d'accord avec M. Fico, le Premier ministre slovaque, sur le fait que la situation en cours menace notre sécurité. Parmi les migrants qui arrivent en Europe figurent des gens qui possèdent une expérience des combats dans leur pays. Ce n'est là un secret pour personne, ces gens peuvent représenter un risque. Nous, la Slovaquie et les autres pays d'Europe centrale, faisons le maximum pour réduire ce risque en filtrant les arrivants aux frontières.
Pour cela, et comme en Hongrie à la mi-octobre, le gouvernement, qui a proposé lui-même son aide, va déployer une vingtaine de policiers et une cinquantaine de militaires avec du matériel en Slovénie. Leur mission, qui durera au minimum un mois, consistera à coopérer avec les autorités locales à la surveillance de la frontière avec la Croatie. Et à ceux qui estiment que cet apport tchèque est insuffisant, le ministre Chovanec a répondu que la République tchèque agissait dans la mesure de ses moyens.
Les autres pays doivent eux aussi participer pour que cela ait un sens. Quoi qu'il en soit, aider la Slovénie et la Hongrie à protéger leurs frontières me semble être une meilleure solution que de construire une clôture à la frontière avec la Slovénie ou d'édifier des barrières entre la Bavière et l'Autriche, voire entre la Bavière et la République tchèque, comme envisagent de le faire l'Autriche et l'Allemagne. Je pense qu'il est préférable de protéger les frontières de l'espace Schengen que les frontières des pays à l'intérieur de celui-ci. C'est ce que nous affirmons là aussi depuis le début. Si tous les pays européens participaient à cette protection comme le fait la République tchèque à son échelle, il pourrait rapidement y avoir entre 600 et 1000 policiers des États européens en Slovénie. Et cela représenterait alors une certaine force.
Et comme la Hongrie, qui a fermé ses frontières avec la Serbie et la Croatie, la Slovénie parviendrait à ses fins et atteindrait son but à la satisfaction, entre autres, de la République tchèque.
Le 31 octobre s'est achevée l'exposition universelle Expo 2015 à Milan. Parmi les 145 pays qui ont participé à cet événement, la République tchèque peut s'enorgueillir d'un certain succès avec son pavillon, car il a remporté la médaille de bronze pour sa valeur architecturale. Une cerise sur le gâteau, le pavillon s'étant déjà vu décerner également d'autres prix de la part des visiteurs et des médias. L'Expo 2015 a attiré en totalité quelque 20 millions de visiteurs. Plus de 10% d'entre eux sont allés voir également le pavillon tchèque situé à l'entrée de l'exposition. Selon les rapports non officiels, ce pavillon a ainsi fait partie de 6 pavillons les plus visités. Commissaire général de la délégation tchèque, Jiří František Potužník, évalue rétrospectivement la présence tchèque sur cette manifestation.
Il y a trois facteurs qui permettent de quantifier le succès potentiel. Il s'agit primo du nombre de visiteurs du pavillon par rapport à la fréquentation totale de l'expo. Secondo, il est important d'avoir de bons échos dans les médias. En ce qui nous concerne, nous avons été choisis par exemple comme le pavillon le plus accueillant, le deuxième plus beau pavillon de nuit ou le pavillon avec le plus beau toit terrasse. Notre restaurant a également été indiqué par le guide officiel italien du Corriere della Sera comme l'un des trois meilleurs restaurants après les restaurants français et uruguayens. Enfin, le troisième facteur dont nous devons encore attendre les résultats, c'est l'évaluation économique qui indiquera si cet investissement dans la présence nationale sur l'expo a été lucratif pour nos partenaires investisseurs ou non.
Jiří František Potužník poursuit en soulignant notamment la popularité des plats traditionnels tchèques et sans aucun doute de la bière dont on a vendu plus de 1000 litres par jour.
Corriere della Sera est le plus prestigieux quotidien italien. Ce journal a écrit que c'était notamment la cuisine de gibier et la pilsner non pasteurisée tirée directement de la cuve qui en valait la peine. Ce type de bière n'était pas connu en Italie avant l'ouverture du pavillon tchèque à l'expo, mais maintenant, il est vendu déjà par deux restaurants à Milan.
En comparaison avec certains pavillons consacrés principalement à présenter comme destination touristique ou économique le pays, le pavillon tchèque était orienté cette année avant tout vers les objectifs principaux de l'exposition définis par le Bureau international des expositions, soit l'éducation du public, la promotion du progrès et la coopération internationale. À l'intérieur du pavillon, cette innovation qui concernait le thème fondamental de l'exposition, nourrir la planète, énergie pour la vie, ont été présentées sous forme d'œuvres d'art contemporaine. D'après Jiří František Potužník, les objets les plus populaires auprès du public étaient la fontaine avec une sorte d'animal hybride, un oiseau-tau, créé par le sculpteur Lukáš Rydštejn avec du bioplastique produit à partir d'huile de friture recyclée et présentant une nouvelle manière de filtration de l'eau à l'aide de nanotechnologie, ou le laboratoire du silence développé par les botanistes de l'Université technique de Prague qui présentait l'atmosphère de la forêt tchèque. La manière dont la République tchèque s'est présentée à l'Expo 2015 a été également appréciée par les organisateurs de l'événement. Devancé seulement par la Grande-Bretagne et le Chili, le pavillon tchèque a remporté la médaille de bronze pour sa valeur architecturale. À cette occasion, Jiří František Potužník a confié au micro de Radio Tchèque.
Je pense que c'est notamment grâce à l'architecture pure qui ne prend pas de grands airs. Il n'y a pas d'enjolivement. Le jury a apprécié également les technologies innovantes utilisées lors de la construction même du pavillon. Le pavillon, dont le style fait penser au fonctionnalisme tchèque et qui est conçu selon les principes du développement durable, était constitué de conteneurs modulables qui peuvent être aussi bien montés que démontés. Et heureusement, les organisateurs ont apprécié cela plus que les fioritures vues sur d'autres pavillons.
Construit par l'entreprise Coma Modular, le pavillon sera démonté et installé d'une manière permanente dans la ville de Vysovice, siège de ses créateurs, à partir de l'année prochaine. La fonction qu'il va désormais remplir n'est pour l'instant pas définie. Selon ses propriétaires, il pourrait servir d'immeuble de bureau ou d'école maternelle. La deuxième partie de notre émission se poursuivra avec la rubrique Panorama. Jihlava, cette métropole de 50 521 âmes, chef-lieu de la région de Vysočina au cœur de la Tchéquie, a retrouvé la douce torpeur qui la caractérise habituellement. c'est que dimanche s'est achevée la 19e édition de son festival international du film documentaire, le plus grand événement du genre en Europe centrale. Une semaine durant, la ville a vécu au rythme de ces milliers de festivaliers qui ont battu le pavé pour se presser dans les salles de cinéma et assister à la projection de quelques-uns des près de 250 films sélectionnés. Radio Prague aussi a usé ses souliers dans des queues interminables. C'est un reportage de Pierre Maignan.
Panorama.
Panorama.
Pour cette édition 2015, les organisateurs sous la direction de Marek Hovarka ont eu beau réquisitionner un nouveau bâtiment, la maison des ouvriers, pour compléter le réseau de salles utilisées pendant la manifestation, cela n'a visiblement pas suffi. Les files d'attente étaient quasiment la règle avant chaque projection, surtout pour les documentaires tchèques, mais pas seulement, avec des spectateurs pas rebutés à l'idée de visionner une énième fois avant le film en question, le fameux spot du festival, dont la star était curieusement cette année un gorille avec les mots d'ordre de liberté et d'éternité.
Již protože jsem opice, poznávám jasně, jak lidský druh je příliš okouzlen. Velmi často nechají se svést tím slovem svoboda.
Il s'agit d'un public le plus souvent jeune, celui qu'on croise partout dans les cafés et les événements culturels à Prague et dans les grandes villes du pays. Le jeune âge des festivaliers, c'est d'ailleurs ce qui a marqué Christophe Liaboeuf, habitué des festivals français et qui, avec l'équipe de l'association La Pellicule Ensorcelée, pour la deuxième année consécutive à Jihlava, proposait aux curieux de découvrir différents courts-métrages dans une salle de projection mini mais mobile, la Caravane Ensorcelée.
Ce qu'on voit évidemment ici, c'est la jeunesse. Ça, c'est hallucinant que de voir la moyenne d'âge dans les salles doit être à 22, 25 ans. C'est bizarre de se dire on a l'impression d'être super vieux alors qu'on a 10 ans de plus qu'eux. Ça, c'est clair, ça fait plaisir de se dire que le documentaire qu'en France, on trouve quand même, devant lequel on trouve plutôt des publics qui ont 60 ans et voilà, le public Télérama France Inter, d'une certaine manière, hein, pour dire les choses. Ici, on se rend compte que ça brasse énormément de jeunes. Qui viennent d'une manière curieuse, on les voit complètement aussi dans la caravane, hein, d'ailleurs, ces jeunes-là, ils n'hésitent pas une seconde, ils rentrent, ils se laissent prendre par un film. Et puis, ce que moi je trouve aussi génial, c'est le monde qu'il y a dans les salles, de voir que quand il y a 150 places dans une salle, il y a 180 spectateurs, quoi. Ça, c'est vrai que ça ferait plaisir de temps en temps de voir encore ça en France, et c'est de moins en moins le cas.
En termes de fréquentation, la 19e édition du festival est donc incontestablement un succès. Elle aura seulement été marquée par une petite controverse liée à la décision contestée du jury de la section compétitive Česká radost, plaisir tchèque en français, qui voyait s'affronter la production nationale, un verdict annoncé par l'artiste Milan Knížák samedi lors de la soirée de fermeture.
Proto rozhodla, že žádný z filmů letošní soutěže nás nezaujal natolik.
Le jury a considéré qu'aucun film de la compétition cette année ne l'avait suffisamment captivé pour mériter le Grand Prix. La majorité des films sont peu clairs en termes de réalisation, ils souffrent d'une longueur excessive, beaucoup d'entre eux restent au niveau du reportage télévisé et souvent l'engagement de l'auteur n'est pas cohérent ni convaincant.
Une décision audacieuse mais sévère et mal perçue par certains qui remarquent en particulier la présence dans le jury de Martin Dušek, lauréat l'année précédente. Paradoxalement, le prix du public est allé à une production tchèque, Matrix AB, un film de Vít Klusák, un des réalisateurs de documentaires les plus en vue en Tchéquie, qui s'est intéressé à la personnalité du ministre des Finances, le milliardaire Andrej Babiš. Le quotidien Mladá Fronta Dnes, dont ce dernier est le propriétaire, a eu la tâche difficile d'évaluer le film. La journaliste se sort de cette situation délicate avec une pirouette, indiquant en titre que ni Babiš, ni le réalisateur
spectateurs ne sortent vainqueurs du film. Le jury de la section tchèque a tout de même remis des prix spéciaux à deux documentaires. Le premier, Tchèque contre Tchèque, de Tomáš Kratochvíl, qui filme son déménagement dans un ghetto rom d'Ústí nad Labem, et le second de Tomáš Potočný sur Vladimír Stelík, un homme qui crut un temps pouvoir devenir le roi de l'acier dans l'industrieuse ville de Kladno. L'ambition de Ihlava n'est cependant pas seulement de se regarder le nombril, et les autres sections compétitives font la part belle à la production internationale. La principale catégorie se nomme Opus Bonum, une sélection d'œuvres souvent exigeantes, parmi lesquelles l'unique membre du jury a distingué Dead Slow Ahead de l'espagnol Mauro Hercé. Une catégorie dans laquelle était également présenté un film français, Souvenir de GN. Thomas Yankoe y dresse le portrait poétique, urbanistique et relativement sombre de Grande Synthe, une cité industrielle de la banlieue de Dunkerque, en prenant pour fil rouge la déposition d'un homme coupable d'un crime raciste. Le cinéaste relate son expérience du festival de Ihlava.
C'est ma première participation à ce festival et c'est la première fois que je montrais le film à l'étranger. Et c'est vrai que dans la liste des festivals où je voulais voir le film projeté, j'avais vraiment envie qu'il soit à Jihlava. J'avais envie de venir à Jihlava parce qu'on m'en avait dit beaucoup de bien, on m'en avait dit que c'était une espèce de contre-festival. Et ça, c'est un esprit qui me correspond beaucoup en tant que réalisateur, mais aussi en tant que producteur, parce que les films que je produis et que je réalise sont pas forcément des films faciles, mainstream, etc. Et j'étais très content en fait de ce que j'ai trouvé parce que c'était exactement ce que j'étais venu chercher. Je trouve que c'est un festival qui est bien organisé. C'est très bien en fait de le faire dans une ville comme Jihlava et non pas à Prague, parce que au moins c'est entièrement dédié au cinéma. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce phénomène qu'on peut avoir dans certains festivals où c'est surtout les soirées, etc., où finalement personne ne voit de film. Moi j'étais surpris de voir autant de personnes à toutes les projections. J'avais jamais vu ça ailleurs dans d'autres festivals de documentaires.
Le thème dominant cette année était sans conteste celui de la guerre en Syrie et des réfugiés. Un seul film abordant la question, Abdul et Hamza, du Serbe Marko Gorbasing, a reçu une distinction sous la forme d'un prix spécial dans la catégorie Mezimoji, entre les mers, mais il n'y a pas que la compétition à Ihlava. Les spectateurs qui ne perdent pas connaissance dans la cohue d'attente du hall d'entrée des cinémas Edison et Réforme peuvent profiter chaque année, entre autres joyeusetés, de rétrospectives consacrées à des grands noms du cinéma associés aux films documentaires. C'est traditionnellement David Chenyek, historien du cinéma à l'Université Charles, qui en assure la programmation. Cette année, sa sélection s'est portée sur Eugène Deslav, un réalisateur de nombreux courts-métrages né en Ukraine à la toute fin du 19e siècle, qui a émigré en Tchécoslovaquie après la Première Guerre mondiale pour finalement s'installer à Paris. La cinéaste Raymond Carrasco, décédée en 2009, a également eu l'honneur d'une rétrospective. Son travail l'a amené pendant près d'un demi-siècle sur la piste des Tarahumara, un peuple indien du nord du Mexique, dont, avec son mari Régis Ebro, venu présenter son œuvre à Ihlava, elle s'est attachée à filmer les rites. David Chenyek parle d'un cinéma de transe.
Elle s'éloigne de ce qui est anthropologique dans le sens d'expliquer le sens des rites, mais elle essaye en fait de faire cette relation entre les textes d'Artaud qui sont très poétiques et des fois très cruels, et l'image de ce qu'elle avait vécu là-bas. À Ihlava, en général, on ne programme pas les films anthropologiques, c'est pour autre public, moi je dirais. Mais là, j'ai trouvé la forme des films si intéressante que j'ai décidé en fait de proposer cette programmation au président du festival, et il a accepté.
Pour rester en Amérique latine, il fallait ensuite prendre la direction de la Maison des ouvriers, dont nous avons parlé précédemment, pour être transporté en Colombie avec le film Rio Chiquito de Jean-Pierre Sergent, ou plus au sud encore avec On vous parle du Brésil, Carlos Marighella de Chris Marker, deux cours programmés dans le cadre de la section intitulée Terrorisme, dont l'élaboration a été confiée au cinéaste Jean-Gabriel Perriot. Déjà passé à plusieurs reprises par les festivals tchèques, son premier long métrage, Une jeunesse allemande, sorti dans les salles françaises à la mi-octobre, a eu droit à deux projections. Il s'agit d'une œuvre construite à partir d'images d'archives qui racontent le basculement vers le terrorisme, en l'occurrence vers la constitution de l'organisation Fraction Armée Rouge par de jeunes radicaux allemands entre les années 1960 et 1970. Quelque peu déçu par la forme linéaire du film, Christophe Liaboeuf évoque le cinéma de Jean-Gabriel Perriot.
Jean-Gabriel, c'est quelqu'un qu'on suit avec l'équipe de La Caravane, mais même avant, moi, depuis le début des années 2000, hein, depuis qu'il a commencé vraiment à faire ce travail autour de l'image et à écrire des films avec des images préexistantes. Jean-Gabriel, pour moi, c'est l'exemple type de la personne qui nous montre que le montage est une écriture de cinéma. Qu'un film, on dit souvent qu'un film s'écrit au scénario, il se réécrit au tournage et il se réécrit une troisième fois au montage. Jean-Gabriel, alors que sans un film, évidemment, il a écrit scénario et il a réalisé, mais aussi parfois, comme ici, il s'appuie quand même sur des images d'archives et son montage fait du sens.
Le festival de Jihlava, c'est aussi un espace destiné aux professionnels du cinéma, à la coopération internationale entre ceux qui font du documentaire, ceux qui le financent, ceux qui le distribuent. Ceux qui apprennent à faire des films ne sont pas en reste pour autant. C'est le sens de l'échange tchéco-suisse avec le festival Vision du Réel de Nyon, impliquant également la FAMU, l'école de cinéma pragoise et la Haute École d'Art et de Design de Genève. Jean Perret, qui dirige le département cinéma, s'attarde sur le sens de cette collaboration.
Le festival, vous le savez, est un festival important dans l'Est de l'Europe, le plus important sans doute aujourd'hui. Mais ce festival n'a d'importance que s'il est en relation, en réseau avec toute l'Europe de l'Ouest, dont je viens, dont la Suisse vient, mais aussi dans un réseau encore plus large. Un festival de cinéma, il a plusieurs vertus. L'une des vertus, c'est de faire exister un réseau de collaboration, d'échanger. Et je pense que ces échanges DocStream font partie de cette ambition du festival de Jihlava d'être en réseau.
Parallèlement au cinéma, la flamboyante capitale de la région Vysotchina et son légendaire magasin Prior, vestige architectural de l'ère communiste, qui trône avec panache au cœur de la place principale, faisant la fierté des habitants du coin, devient aussi quelques jours durant un foyer de débat avec certains des acteurs de l'actualité internationale la plus brûlante. Le réfugié syrien Osama Abdul Mohsen, victime d'un croc en jambe d'un journaliste d'extrême droite hongrois, la poussiéreuse Maria Aliokhina ou encore le lanceur d'alerte Julian Assange y sont tous allés de leur conférence. Mais là encore, il fallait jouer des coudes ou camper devant les salles pour avoir une chance d'y assister. Pour la 20e édition du festival l'an prochain, les organisateurs devront peut-être songer à la réquisition de nouvelles infrastructures.
Voilà, c'est la fin de ce programme qui vous était présenté par Alžběta Tichá. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos articles sur le site de Radio Prague www.radio.cz/fr ainsi que sur les réseaux sociaux. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Ahoy !